André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Et merci d'écouter ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. La journée internationale de l'épargne est célébrée le 31 octobre de chaque année. Les slogans retenus pour la célébration à RDC et épargner en RDC pour mon avenir. Oui, c'est possible. Cette journée a pour objectif la promotion de l'épargne grâce à la bancarisation de la population et la fidélisation des clients, particulièrement les plus jeunes d'entre eux. Rappelons que l'épargne a connu beaucoup de péripéties en RDC avec des cas, des fois des détournements des fonds enregistrés plusieurs fois, une situation qui parfois décourage la population. Quel état des lieux faites-vous de l'épargne dans votre milieu? Nous recevons dans ce studio Francis Nzondomio, qui est expert en conseil, expert et conseil en microfinance à la coopération technique allemande GIZ. Parole aux auditeurs coordonnés par J.R. Lungembo, Titi Mputu et Paul Bayanyama sur la réalisation et Pierrot et Lameji, la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous pouvez également nous joindre au 081 890 43 39. Francis Nzondomio, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis un certain moment, on voit une forte campagne de sensibilisation autour de l'épargne. Pourquoi cette tendance à plus sensibiliser actuellement sur l'épargne?
Bon. C'est par rapport à la politique mise en place par le gouvernement de la République en ce qui concerne la bancarisation. Alors, pour l'historique, cette journée internationale a été instaurée depuis 1924, mais en RDC, ça a été célébré pour la première fois en 2011, c'était la première session, et la deuxième session, c'était en 2012. Cette année, ça sera la troisième session. En fait, le but poursuivi, c'est en fait d'atteindre la plus grande majorité de la population congolaise, c'est-à-dire les amener du circuit informel vers le formel. C'est en fait ça l'objectif poursuivi.
Mais quand on regarde au niveau de la RDC, on a un problème sérieux de taux d'implantation des banques. On peut sensibiliser, c'est mieux, mais où est-ce qu'ils vont aller épargner? Parce qu'on n'a pas assez de banques, surtout en province, en milieu reculé.
Bon, évidemment, c'est un problème sérieux, mais je pense qu'on a enregistré des efforts vraiment considérables ces dernières années. Il y a beaucoup de banques et des institutions financières qui s'installent dans les fins fonds, dans les provinces. Mais, en fait, c'est un effort que tous les acteurs et puis les gouvernements doivent consentir pour, en fait, implanter jusque dans les fins fonds de la République les institutions financières afin d'atteindre cet objectif poursuivi.
Et quand on regarde au niveau de la société congolaise, on vit plus de, on peut dire, des petits travaux, de la débrouillardise, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont accès à l'emploi dans le sens où ils peuvent avoir des fonds consistants à pouvoir placer à la banque ou dans une institution de microfinance. C'est plus les gens qui se débrouillent. Et comment qu'on peut concilier ces niveaux de vie économique de la population avec l'épargne?
En fait, c'est bon. C'est a priori que les gens pensent que il faut avoir des grands moyens pour épargner, mais les études menées sur le terrain prouvent que même les plus démunis épargnent, parce que dans nos populations, mais ce qui est peut-être marrant, c'est que la, disons, c'est l'épargne pour les pauvres, généralement, c'est pas dans les circuits formels. Mm-hmm. Vous connaissez ce qu'on appelle Wakisa Card, ici, dans la République, donc ce sont des phénomènes. Et il y a aussi la tontine, qu'on appelle Ikelemba, ça aussi c'est une sorte d'épargne, donc c'est faux à dire que les pauvres n'épargnent pas.
C'est-à-dire qu'il faut arriver maintenant à amener cette épargne dans les circuits plus organisés, plus formels.
Justement.
Mais comment sécuriser alors? Parce que vous savez, la plupart de cas ici chez nous, ce sont des déceptions. On connaît des tristes expériences avec les coopératives qui, à un certain moment, disparaissent avec les fonds, tout ça, autant de problèmes. Comment on peut restaurer la confiance de la population envers l'épargne, vu les expériences passées?
Bon, je pense que ça, c'est un fait. Mais, comme je le disais tantôt, des efforts considérables ont été fournis, d'abord par les gouvernements et la Banque centrale. Ils ont mis en place des mécanismes, notamment d'assainissement du secteur financier congolais. Et puis, en plus, en dehors de ça, il y a, du point de vue macroéconomique, le gouvernement a mis en place une politique de restauration de confiance en mettant en place des outils pour convaincre la population à avoir plus confiance dans les secteurs financiers, notamment en termes des supports. En ce qui concerne la supervision de la Banque centrale, il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés. La Banque centrale, sur le plan réglementaire, a mis en place des normes prudentielles que les institutions financières doivent respecter afin d'avoir des institutions stables, afin d'amener la population à restaurer cette confiance dans les secteurs financiers congolais.
Et avant d'écouter les auditeurs, mais par rapport aux procédures, comment ça se passe? Quelqu'un qui a besoin d'ouvrir une institution de microfinance, et comment procède-t-elle, un peu en bref, mais par rapport aussi à la population, où doit-elle aller pour qu'elle soit sûre que cette institution peut être crédible? Voilà les deux facettes de la question, oui.
Bon, ce qui est d'abord très important par rapport à l'ouverture des comptes, je pense qu'il tient de souligner que la population ne doit pas épargner n'importe où. Ça doit d'abord être une institution agréée par la Banque centrale et autorisée par la Banque centrale de collecter les épargnes. C'est d'abord ça le plus important. C'est-à-dire que on voit parfois des institutions qui opèrent dans l'illégalité. Donc c'est très important. Là aussi la population doit être instruite pour savoir que ce n'est pas n'importe où on épargne. On épargne dans une institution agréée par la Banque centrale et ce n'est pas toute institution agréée par la Banque centrale qui est autorisée de collecter l'épargne. C'est en fait l'institution qui est autorisée aussi par la Banque centrale de collecter l'épargne.
Voilà, on va revenir à vous parce qu'il y a beaucoup de questions. Les auditeurs aussi, ils ont besoin d'intervenir, nous dire ce qu'ils pensent de l'épargne dans leur milieu, ce qu'il faut faire pour sa réussite. Voilà, autant de problèmes, de questions. 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons Dr Richard ici à Kinshasa, nous avons Séraphin qui nous appelle d'Ouvira, en province du Sud Kivu, et Maxime qui est à Kisangani, en province orientale.
Parole aux auditeurs.
Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous ceux qui suivent la radio Okapi.
Et nous faisons
les points. Félicitations pour le thème choisi, c'est-à-dire parler de l'épargne aujourd'hui en RDC.
On vous écoute.
Voilà. Oui. L'épargne en RDC, comme l'invité que je salue venait de dire, n'a célébré que deux éditions. Ça signifie quoi? Ça signifie le système d'épargne dirigé par les autorités de l'épargne qui nous suivent savent que ils ne sont pas aimés par la population compte tenu
de mauvais souvenirs. L'épargne au Congo a rendu les gens pauvres et a détruit les économies de beaucoup. Pourquoi? Parce que elle est, on peut citer la CADESA, elle est apparue insolvable avec des pièces comptables bien remplies. Moi-même qui vous parle, j'avais raté en 1987 d'acheter une maison parce que mon argent gardé à la CADESA ou à la CADECO aujourd'hui était introuvable, mais il y avait l'écriture comptable. Donc j'ai raté à ce moment-là d'acheter une maison et je n'ai pas de maison jusqu'à aujourd'hui. Voyez. Et puis, j'ai beaucoup félicité l'intervenant, donc l'invité qui parle de la confiance. Donc, pour épargner, dans les tontines que vous voyez là, pour dans les bois qui s'accartent, on a confiance en cette personne. Et on n'a pas confiance à la CADECO. Parce que la CADECO, mon expérience, je vous la donne. J'ai des documents là-dessus. M'a rendu donc un SDF, un fixe. C'est ça. Alors, maintenant, pour restaurer la confiance, il faut que la CADESA, avant de parler, avant que la République parle de l'épargne, on doit commencer par la réparation. Commençons par la réparation. Nous avons suivi, après les concertations, les discours de M. Joseph Kabila, le président de la République, parlant de du paiement de la dette intérieure. C'est ça aussi. Commencez par réparer avant de parler. Commencez par réparer. Vous savez, on risque de donner raison à tout ce qu'il disait aux économistes. Quand on n'arrivait pas à exporter le cuivre congolais par Lobito, on devait faire le détour par la route nationale et Akwamouth ou Kwamouth, des tonnes de cuivre sont tombées là-bas. Il a demandé aux économistes quelle théorie pour faire sortir ça. Et il a fini par dire économiste des chambres, c'est-à-dire faiseur de malheur du peuple. Donc, l'épargne ici chez nous, c'est une histoire qui fait le malheur auprès du peuple. On doit commencer par corriger ça. Une fois corrigé, présentez-nous les panacées qui peuvent donner le bonheur à partir de l'épargne. Sinon, c'est comme l'histoire de Dutch International.
Voilà.
Dutch était une épargne ristourne. L'État a mis la main dessus. La preuve, c'est quoi? On nous a remboursé 21%. Où sont les 79%? Nous attendons ça. On connaît les gens qui ont mis la main dans cette caisse et ils se sont enrichis. Où est la suite? Massango est parti à la retraite et le dossier est où? On risque de connaître le dossier de bien malaki et assassinat.
Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Richard. C'est important ce que vous avez dit. Quand on a les blessures par rapport à l'expérience passée, il devient difficile de pouvoir continuer à épargner. Et là, vous avez utilisé un terme que je beaucoup apprécié, c'est la restauration de la confiance entre celui qui a les soucis d'épargner avec les institutions. Et il faut réparer, payer la dette et instaurer un bon système qui permette à ce que les gens puissent pouvoir épargner. Merci beaucoup, docteur Richard, pour ce point de vue. Séraphin, vous êtes à Ouvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Bonjour, Séraphin.
Bonjour, Tonton Piro, ainsi qu'à l'invité au studio.
Vous avez suivi, docteur Richard, dit qu'il faut d'abord restaurer la confiance, n'est-ce pas, pour permettre à ce que la population puisse revenir à nouveau dans la culture de l'épargne. Et pour vous, quel est votre point de vue pour y arriver?
Merci de l'opportunité que m'accorder une fois de plus à passer à cette émission. Et d'abord, avant de répondre à votre question, hein, parce que j'ai suivi, vous avez posé la question à l'invité de savoir comment concilier le revenu des Congolais à l'épargne. Et il a dit que d'après les études menées, on a constaté que beaucoup de Congolais épargnent à travers des activités de secteur informel. Et moi, je suis étonné parce qu'aucune tête ne le justifie. Parce que partant même de la définition de l'épargne, c'est la part du revenu qui n'est pas utilisée pour la consommation immédiate et qui est mise en réserve en vue de dépenses futures ou d'un meilleur rendement. C'est ça la définition de l'épargne. Et si vous partez même à travers la formule de l'épargne, qui est le revenu moins consommation, qui est égal à l'épargne, c'est ça la formule de l'épargne. Alors, dès lors que les Congolais n'ont pas des revenus consistants et ils consomment plus que leurs revenus, comment est-ce que ces derniers parviendront à épargner? C'est ça la question que je me pose. Bon, ça maintenant de la réalité, parce que j'ai suivi toujours l'invité qui est au studio, Il a montré que l'épargne a rien que des retombées positives, mais non, l'épargne n'a pas que des retombées positives, il y a aussi des retombées négatives sur l'épargne. Les retombées négatives, c'est quoi sur l'épargne? Parce que l'épargne occasionne une fuite importante de la monnaie en circulation. C'est ça aussi, ça frappe l'économie. Et c'est ça aussi, les retombées négatives de l'épargne. Et il y a aussi, lorsqu'il y a une insuffisance d'épargne, ça peut aussi porter préjudice à l'investissement. Et lorsqu'il y a aussi l'excès de l'épargne, ça peut aussi préjudicier la demande de consommation. Donc, l'épargne, c'est une bonne chose, mais l'épargne n'a pas que des retombées positives, il y a aussi des retombées négatives sur l'épargne.
Oui, c'est Raphaël, mais partant des retombées positives dans votre milieu à Ouvira, comment on peut parvenir à développer cela pour que cela, effectivement, les retombées positives puissent profiter à la population?
Bon, effectivement, ce qu'il y a là, il faut sensibiliser la population, parce que la population congolaise, la population d'Ouvira n'a pas confiance, parce qu'aujourd'hui, à Ouvira, nous n'avons que deux banques commerciales qui viennent à peine de s'implanter. Mais néanmoins, auparavant, on avait des coopératives, et la population d'Ouvira n'avait pas confiance à la coopérative. Je vous donne juste un petit exemple aujourd'hui. Il y a la COPEC IMAR qui est à Ouvira. Aujourd'hui, cette COPEC est heurtée à plusieurs difficultés de liquidité. Et les problèmes qui se posent, c'est quoi? Parce qu'on engage le gens dans des coopératives, dans des banques qui ne sont pas des financiers de formation, parce qu'il y a des calculs au préalable, des calculs des RH de trésorerie, il y a les calculs des RH de liquidité pour permettre à ce que, les dettes ou les créances que vous allez faire aux clients ou aux membres, est-ce que ça ne peut pas entraver votre RH de trésorerie? Donc il y a un sérieux problème. Donc pour le moment, il faut d'abord sensibiliser la population et aussi dans des banques, dans des coopératives, qu'il y ait quand même la gestion transparente pour permettre à ce que la population puisse avoir confiance à ces dernières afin qu'ils puissent épargner.
Merci beaucoup, Séraphin. Au-delà de toutes les considérations économiques sur les retombées positives, qu'elles soient négatives de l'épargne, mais il faut la sensibilisation de la population pour qu'elle parvienne à comprendre comment est-ce qu'il faut procéder. Et là, vous souhaitez plus de recourir à des banques qu'à des coopératives parce qu'elles sont limitées quelque part dans la gestion, dans la politique même, ce qui fait qu'elles ne parviennent pas à remplir leur mission comme il faut. Merci beaucoup, Séraphin. Maxime, vous nous appeler de Kisangani en province orientale. Bonjour. Maxime, vous êtes avec nous, bonjour. Non, on a perdu Maxime. Je crois que nous allons à Goma, au Nord Kivu. Nous avons en ligne M. Arsène Tambouka, qui est de l'association congolaise de banque. Vous êtes à Goma, c'est dans la province du Nord Kivu. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Et nous dégageons ensemble les pistes et des solutions par rapport à l'état des lieux de l'épargne dans notre pays. Vous êtes à Goma. Dites-nous, avez-vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que la population s'intéresse-t-elle à l'épargne? Y a-t-il un engouement? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Voilà. Et d'abord, premièrement, c'est la position de la population par rapport à l'épargne. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour permettre effectivement à cette population d'épargner?
Les difficultés que nous rencontrons globalement, c'est... On dirait qu'il y a encore une crise de confiance. C'est vrai que petit à petit, la population commence à faire confiance aux banques. Mais je pense que les expériences vécues dans le passé ont quand même entamé la confiance de la population. Si même on regarde les montants qui passent par les banques, je peux même vous donner les chiffres. Mm-hmm. Présentement, les montants qui passent via les systèmes bancaires au Congo, c'est près de 4 milliards de dollars qui passent en banque, en dépôt. Alors que l'Afrique estime le montant qui passe dans l'informel à près de 15 milliards de dollars.
Mm-hmm.
Ça vous donne, ça c'est du tout en fait. Ça dit que c'est du tout, on dirait même cinq fois le montant qui est en banque, c'est là que vous allez trouver le montant qui ne passe pas encore dans le circuit bancaire.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre la population en confiance de ce côté-ci du pays.
Mais
ça, bien sûr,
oui. Oui, mais quand vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire pour mettre la population en confiance au niveau de l'association des banques, qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'effectivement cette population puisse avoir confiance dans le système bancaire? Quelles sont les mesures? Vous sensibilisez? Qu'est-ce que vous faites au juste pour permettre à la population d'avoir confiance dans le système?
Les mesures qui ont été mises en place par les banques, c'est entamer déjà ce processus-là éducationnel et accompagner la population, parce que la population congolaise, il faut aussi qu'elle n'a pas encore cette culture-là de l'épargne. Il y a encore énormément de pulvérisation. Et c'est là que nous faisons comprendre à la population qu'il en va de son intérêt d'épargner en banque, parce que ça peut permet de préparer pour l'avenir. On voit même cela dans l'épargne même des enfants. Il y a combien de parents qui pensent à épargner pour leurs enfants? Et dire que plus tard, l'enfant peut bénéficier de quelque chose. Il y a tout un travail, et c'est ce que les banques sont en train de faire, d'amener la population encore à bien saisir la nécessité d'épargner en banque, et donc d'investir. Parce qu'il y a, quelque chose qui est anormal, et je pense qu'il n'y a qu'ici, au fond, où on va en faire des gens qui parviennent à construire des maisons, sans prendre aucun crédit en banque. C'est quelque chose incompréhensible. Alors, amener cette population à comprendre qu'en épargnant, elle peut par exemple bénéficier d'un accompagnement d'une banque, un crédit, et donc, sur arriver à bon port, un projet d'investissement, par exemple. Et c'est tout ce travail que les banques sont en train de faire. Mmh. Je pense que également, le choix de bancarisation est tombé à un bon moment. Sincèrement, il faut vraiment féliciter le gouvernement d'avoir pris cette option, de commencer à payer les fonctionnaires via les banques. Les gens qui ont encore des difficultés par rapport au territoire, l'immensité du territoire, et les banques qui ne sont pas encore présentes dans les fins fonds des territoires, mais il faut dire que nous sommes déjà sur la bonne voie. Et on commence à voir les résultats.
Et enfin, la dernière question, c'est par rapport à cette tendance, vous avez dit, les 4 milliards qui passent par les banques en dépôt et 15 milliards selon la FEC en circuit informel, quand même c'est énorme. Mais par exemple à Goma, si nous prenons l'exemple de l'Est, là où vous êtes, quelle est la tendance en dehors du fait qu'avec la bancarisation, automatiquement ou obligatoirement, les salaires passent par la banque, mais est-ce que volontairement vous avez ces constats que les gens volontairement viennent aujourd'hui solliciter les services de la banque pour qu'on dise quand même qu'il y a une certaine amélioration, ou bien malgré la crise de confiance, les gens sont statuaires ou bien ils sont quand même à un certain moment attirés vers les banques en dehors de la bancarisation des salaires, de que ce soit les fonctionnaires. Mais est-ce que volontairement les gens viennent solliciter les services bancaires aujourd'hui?
Je peux prendre le risque de dire effectivement oui. Les gens prennent le risque de venir maintenant en banque parce que même en essayant de geler tout ce qui est compte bancaire des fonctionnaires, nous constatons quand même une évolution substantielle des comptes des clients qui ne sont pas fonctionnaires de l'État. Il y a des gens qui viennent tout simplement ouvrir des comptes pour épargner.
Oui.
Et je veux dire que c'est quand même une bonne chose. Et il est vrai aussi qu'à l'Est, pendant longtemps, il y a eu très peu de banques.
Mmh.
Et il faut dire que les coopératives ont quand même fait un travail, ont quand même abattu un grand travail, parce qu'ils vont accompagner la population. Mais il est vrai aussi qu'à un certain niveau d'investissement, de business, les clients viennent librement vers la banque et comprennent que ça devient une nécessité. Alors, il est vrai aussi qu'il y en a en fait qui continuent à s'évoluer, dire qu'il n'y en a pas, c'est l'éventuel, parce que le taux de bancarisation au Congo, il est à combien? À 5,7%. Sur une population de 70 millions, vous voyez ce que ça dit. Alors que dans d'autres pays, le taux de bancarisation, il est à 99%. Et là, voilà. Je reconnais que nous avons encore beaucoup à faire, bien que cette population vienne déjà via les banques.
Merci.
Mais je te dis que c'est encore timidement.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Arsène Tambouga, de nous avoir fait ces témoignages à partir des Goma. C'est important, ce que vous avez dit. Les taux est faible, mais quand même, on est sur un certain départ. On peut y arriver. Merci beaucoup. Nous avons Junior qui est à Kindu et Jacques à Béni. Nous revenons à vous directement, Monsieur Francis. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a des inquiétudes, il y a aussi des espoirs. On pense qu'on peut regarder dans l'avenir et aller de l'avant, beaucoup plus sensibilisé au-delà de ce que les auditeurs ont dit pour placer un mot par rapport à ce qui est leur point de vue. Mais il y a aussi cette question, c'est par rapport au renforcement des capacités des sociétés de microfinance, des coopératives, parce que Séraphin pose les problèmes de leur capacité de définir leur propre politique, d'engager les gens et de gérer leurs coopératives, ce qui arrive des fois qu'ils ne sont plus en mesure de répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'au niveau par exemple de la coopération technique allemande, vous avez ces séances, ces formations, des renforcements des capacités pour permettre à ce que les sociétés de microfinance puissent être à la hauteur de la tâche?
Bon, la coopération technique allemande, la GIZ, en ce qui concerne le projet microfinance, est à ses débits. Mais je peux affirmer que la Banque centrale, comme je l'ai dit au début, a mis en place des mécanismes. Il y a des mécanismes mis par la Banque centrale en ce qui concerne la réglementation pour appuyer, amener les institutions de microfinance et les COPEC à être professionnelles. Il y a des normes prudentielles et des normes non prudentielles qui visent à amener les institutions financières à opérer dans le professionnalisme. Donc je pense que, les intervenants l'ont dit, il y a encore beaucoup à faire. Nous venons de très loin et l'état des lieux actuel montre qu'il y a des avancées. C'est un processus. Nous ne devons pas être négativistes. Nous devons voir l'avenir dans les positifs. Je pense qu'ensemble, que ce soit les bénéficiaires des services financiers et les institutions, nous avons un rôle à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, les indicateurs démontrent que PAP, évidemment, il y a des problèmes qui persistent, mais je pense que les indicateurs démontrent qu'il y a des avancées et que la bancarisation va vers les sens positifs en RDC. Donc, je pense que même les institutions aujourd'hui n'ont pas les mêmes niveaux que dans le passé.
Mm-hmm. Oui. Voilà. Oui, allez-y, terminez.
Oui, oui. Donc, moi, je me souviens quand je suis entré dans ce secteur de microfinance en 2008, vraiment, c'était difficile d'avoir des professionnels avec qui on pouvait échanger vraiment des termes du secteur. Mais aujourd'hui, réellement, bien que nous ne sommes pas arrivés encore à l'idéal, mais il y a des avancées.
Mmh, voilà, nous avons Junior qui est à Kindu, dans la province de Maniema, Jacques est à Beni, au Nord Kivu. On va vous accorder la parole. C'est en marge de la célébration de la Journée internationale de l'épargne la semaine prochaine, ça sera le 31 octobre. Parole aux auditeurs, fait le point sur l'état des lieux de l'épargne en RDC. Beaucoup de personnes disent avoir été déçues dans le passé, mais plusieurs aussi proposent des pistes et des solutions, que ce soit la sensibilisation et la restauration de la confiance au niveau de la population pour arriver à faire pénétrer la culture de l'épargne dans la population. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Junior, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Et nous dégageons ensemble des pistes et solutions pour permettre d'améliorer le secteur de l'épargne en RDC. Quel est votre point de vue?
Comme j'ai toujours dit, même l'année passée, j'ai animé une conférence à l'université de Kindu sur la microfinance, la lutte contre la pauvreté. Mm-hmm. J'ai noté dans mon exposé que la culture de l'épargne à Kindu est très faible, et cela pour deux principales raisons. D'abord, j'ai noté que la population kindousienne n'a pas le revenu nécessaire pour lui permettre d'épargner. Parce que nous savons tous qu'il existe deux principales approches sur la notion de l'épargne. La première approche veut que l'épargne soit considérée comme le résultat de la consommation, c'est-à-dire ce qui reste après l'avoir consommé. Mais très vite, lorsqu'on regarde le revenu d'un kindousien, on se pose la question, est-ce que ce revenu lui permet quand même de consommer et de rétablir quelque chose? La réponse est non. La deuxième approche veut que l'épargne soit d'abord déterminée en avant qu'on puisse consommer. Mais on doit encore se demander, est-ce que si la population kindousienne détermine d'abord la part de l'épargne et consommer après, est-ce que cela est possible? La réponse est toujours non. Mm-hmm. Et donc le premier problème ici à Kindu sur la notion de l'épargne, c'est que la population n'a pas le revenu nécessaire pour épargner. La seconde raison ou la seconde motivation qui fait à ce que la culture de l'épargne ne soit pas beaucoup développée à Kindu, c'est le problème de la faillite et de la fuite des plusieurs institutions financières. nous avons noté avec amertume au cours de ces 5 dernières années la disparition presque quasi totale de plusieurs COPEC ici. Et moi, personnellement, j'ai été victime de la disparition de la COPEC, COPECD. Et actuellement, je vous parle ici, je suis encore presque victime de plusieurs flous qui s'entretiennent dans une COPEC de la place ici. J'étais aujourd'hui là, on m'a dit que je n'étais pas retiré plus de 20 dollars dans mon compte, et je me suis dit ça ne va pas. Donc vous voyez que nous avons le problème de la déception que la population a à travers les institutions des financières, mais aussi nous avons le problème de revenus qui pose encore trop de difficultés pour arriver à épargner. Voilà ce que moi je peux dire sur la problématique de culture de l'épargne à Kindu.
Merci beaucoup, Junior, pour ce témoignage. Il y a ce problème de revenus qui se pose. Comme l'a dit tout à l'heure Séraphin qui nous appelait d'Ouvira, quand on n'a pas assez de revenus, ça sera difficile qu'on puisse épargner. Et quand même on aurait épargné, plus vite on va recourir à ce peu qu'on a placé pour pouvoir consommer cela, et on revient encore à la case du départ. Il faut améliorer les conditions de vie des gens, que les gens aient assez de moyens pour pouvoir épargner. Mais il y a aussi ce problème de la restauration de la confiance, hein, par rapport à la faillite et la fuite des différentes coopératives dans votre milieu. C'est un problème. Il faut pouvoir améliorer cela. Merci beaucoup, Junior. Jacques, vous êtes à Béni, dans la province du Nord-Kivu. Bonjour, Jacques. Jacques, vous êtes avec nous. Bonjour. Mais on a perdu Jacques de Béni. Nous allons à Kikuit dans les Bandundu. Nous avons aligné M. Maker Makinissi. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Kwafi.
Et ensemble, nous parlons de l'épargnant, et vous avez quand même une expérience positive. Dites-nous l'expérience que vous avez par rapport à l'épargne. Y a-t-il eu des avancées positives? Est-ce que vous avez profité de votre coopérative? Faites-nous quand même ce témoignage, Maker Makinissi.
Oui, merci. L'épargne ici à la coopérative d'épargne et de crédit Église du Christ au Congo, ainsi que le COPEC SCC. Là, en tout cas, ça se passe très bien. Le membre qui passe pour l'épargne se dit satisfait par le fait que ils sont toujours réguliers et servis à temps au départ, parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre comme ailleurs dans d'autres coopératives, où il faut seulement attendre 10 heures pour être servi ou pour le dépôt des fonds. Mais là, c'est vraiment la ponctualité, et ce qui est une satisfaction de la part de membres de ETC, COPEC ETC. Lorsqu'on reçoit un crédit, l'échéance paraît très satisfaisante parce que on accorde à tous les membres l'opportunité de faire des navettes, soit ils se rendent à Kinshasa pour la vente des produits agricoles, soit ils les vendent à Kiatikapa, et l'échéance leur accordée paraît très satisfaisante. Donc voilà un peu pour les quelques années que moi j'ai passé, parce que je suis ancien, il y a déjà 5 ans depuis que je suis là-bas. Donc l'épargne et le crédit, le poids des crédits paraît vraiment très satisfaisant pour le membre de l'ECC qui quitte.
Mais monsieur Makinissi, à quoi attribuez-vous cette réussite quand même? Ça fait 5 ans que vous êtes là, vous n'êtes pas déçu. Les autres sont là il y a plusieurs années. Alors, à quoi attribuez-vous la réussite de cette organisation?
Oui, la réussite, c'est surtout par rapport au personnel de la COPEC. Vous savez, à Kikuit, nous avons connu certains échecs avec d'autres coopératives parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont peut-être mal assumé leurs fonctions. Et à la COPEC SCC, la particularité, c'est qu'il n'y a que des femmes qui dirigent la coopérative. Et du fait que tout le monde a confiance à la femme, on ne peut pas vraiment espérer à un détournement. Donc, c'est ce qui est la force ou qui peut attirer le membre.
Mais sur terrain, quelles ont été les retombées de cette coopérative? Y a-t-il des gens qui ont bénéficié de fonds qui leur ont permis de réaliser certains projets dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population? Quelles sont les retombées positives de cette organisation, Makinissi?
Oui, il y a parmi les retombées positives, nous pouvons parler des fermiers. Ils se font payer de baisse, du gros bétail. Il y a aussi des étudiants qui, après avoir obtenu des crédits là-bas, arrivent à étudier avec le prêt qu'on a obtenu à la COPEC FST. Mm-hmm.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Makir Makinissi de nous avoir appelé des Kekuites pour ce témoignage. Hein, la réussite que l'organisation a fait aujourd'hui, que la COPEC au niveau de l'SSC permette à la population de pouvoir leur faire confiance et bénéficier de ce service. Nous revenons à vous, Francis Zondomio. Vous avez suivi les uns et les autres. Est-ce que au niveau de quelle soit la Banque centrale, que ce soit GIZ ou d'autres institutions, y a-t-il des structures, des conseils d'encadrement de la population pour savoir tu veux aller investir, épargner, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, parce que des fois aussi c'est ça le problème, les gens ils vont, ils placent l'argent ou des fois ils les retirent, ils prennent l'argent des institutions, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent et demain il n'a plus rien, ou soit il est multi-endetté. Y a-t-il une organisation pour permettre d'encadrer la population par rapport à la culture de l'épargne?
Bon, je parle trop de la Banque centrale, mais bon, excusez-moi, c'est parce que c'est elle qui est l'autorité de régulation et de supervision ici en RDC pour le secteur financier. Je pense que il y a des mécanismes, il y a des projets, surtout par exemple pour l'éducation financière. L'éducation financière, en fait, c'est l'objectif poursuivi, c'est d'amener les utilisateurs de services financiers à faire des choix judicieux en ce qui concerne les produits qu'ils consomment du secteur financier ou des institutions financières, que ce soit les banques, les coopératives ou les institutions financières. Donc, il y a une politique ou un projet de l'éducation financière des masses que la Banque centrale vise. Notamment, il y a déjà des institutions financières qui les font, mais ceux qui ne les font pas, en tout cas, je les encourage de mettre en place des mécanismes d'éducation financière afin de permettre aux clients qui consomment ces produits de savoir pourquoi ils doivent consommer tel ou tel autre produit et ne pas être surendettés, parce que, en fait, les clients aussi ou les consommateurs des services financiers doivent être protégés. Donc, il y a aussi un autre aspect de la protection des consommateurs du secteur financier. Donc, ça, ce sont aussi des chantiers, mais les mécanismes sont déjà mis en place et je pense que ce sont des projets sur lesquels la Banque centrale et l'ensemble du secteur travaillent pour améliorer et assainir les secteurs financiers, rendre les secteurs vraiment professionnel.
Merci beaucoup. Nous avons en ligne de Lubumbashi au Katanga, M. Mabaku Kinsumona, qui est directeur provincial de la Banque centrale. Monsieur, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Nous allons bien. Et en marge de la célébration de la journée internationale de l'épargne, nous essayons ensemble de dégager des pistes de solutions pour arriver à la culture de l'épargne en RDC. Si vous avez suivi Parole aux auditeurs depuis le début, plusieurs auditeurs sont déçus. Hein. Ils disent aujourd'hui, si les gens se découragent par rapport à l'épargne, c'est compte tenu de l'expérience passée. Mais aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, quelles sont les garanties aujourd'hui par rapport à ces sociétés qui viennent solliciter l'autorisation pour s'installer dans le secteur financier? Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place au niveau de la Banque centrale pour assurer leur crédibilité, pour assurer que ce sont des sociétés qui sont en mesure de rendre service à la population sans qu'elles soient encore déçues comme dans le passé? On connaît l'histoire, on ne saura pas citer les institutions qui ont posé le problème à la population par rapport à leur épargne. Mais quelles sont les mesures aujourd'hui au niveau de la Banque centrale de ces côtés-là?
Oui, au niveau de la Banque centrale, il y a plusieurs solutions qui sont mises en place aujourd'hui qui peuvent pousser les épargnants ou la population à faire confiance à la Banque centrale. La première disposition que je voudrais porter à votre attention, c'est d'abord la stabilité du cadre macroéconomique. À l'époque, les gens avaient beaucoup de réticence à épargner parce que la monnaie n'était pas stable. Du jour au lendemain, les taux fluctuaient et une personne qui épargnait le jour de son, du retrait de son argent s'est retrouvé avec une monnaie en termes constants qui était pratiquement dépréciée.
Mm-hmm.
Et ça ne pouvait pas inciter les gens à épargner. Aujourd'hui, la Banque centrale, de concert avec le gouvernement, a réussi à stabiliser les cadres macroéconomiques. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le taux d'inflation est pratiquement à un chiffre, alors que dans les années 90, c'était le taux de quatre chiffres. Aujourd'hui, le taux est pratiquement de un chiffre. Et le taux d'échange est pratiquement stable. Donc, c'est la première disposition importante de nature à pousser les gens à faire confiance au système bancaire et donc à épargner.
Mmh.
La deuxième disposition, c'est le suivi. À l'époque, la Banque centrale, à l'époque, il y avait des défaillances en rapport avec le suivi du système bancaire. Aujourd'hui, la Banque centrale a mis en place un certain nombre de mécanismes, notamment des contrôles des risques au niveau de toutes les institutions financières. La Banque centrale suit un certain nombre de ratios qui permet de voir si l'institution financière concernée continue à se conformer ou à être crédible pour ce qui est de gestion quotidienne. Et que donc, à partir de ces ratios, si la Banque centrale se rend compte que les ratios tendent à poser problème, la Banque centrale directement sonne la sonnette d'alarme et demande à l'institution financière de prendre des dispositions d'ajustement appropriées pour éviter que l'institution en question ne puisse tomber en défaillance, auquel cas il y aurait des problèmes au niveau des épargnants. Donc globalement, ce sont ces genres de dispositions que la Banque centrale a mises en place qui sont de nature à rassurer, à pousser à demander aux gens de changer de comportement. Si à l'époque, les gens avaient l'habitude de garder l'argent dans le matelas, l'argent par devoir eux à la maison, aujourd'hui, je pense qu'ils ont intérêt à les mettre dans le système bancaire parce qu'en les faisant, ils se prémunissent contre certains risques et ils ont avantage à gagner en termes de crédit qui est accordé et en termes de certains aléas futurs en rapport avec la vie future.
Oui, mais vous avez parlé des crédits qui sont octroyés. On se rappellera qu'il y a eu quelques mois, Radio Capi a eu de reportages où on sentait qu'il n'y avait pas, les langages n'étaient pas le même entre les banques commerciales et la banque centrale quand il s'agissait des taux. La population qui s'est plaignée que l'argent qu'elle recevait de banques commerciales était à un taux de remboursement trop élevé. Les banques revenaient à la banque centrale, que non, la banque avec d'autres impôts, d'autres taxes, cela ne nous permet pas de pouvoir baisser aussi les taux. Par rapport au remboursement des crédits, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a quand même une harmonisation de vue entre la banque centrale et les banques commerciales quand il s'agit des chiffres qui inquiètent souvent la population et qui des fois elle a peur d'aller parce qu'elle s'est dit on va l'intérêt que de l'argent que je place il est tellement trop bas, mais quand la banque me doit, je dois rembourser beaucoup. Y a-t-il aujourd'hui une harmonisation de vue entre la banque centrale et les banques commerciales?
Oui, comme j'ai eu à vous le dire, mon frère, si avant les taux étaient prohibitifs, c'est parce que les banques elles-mêmes tenaient compte de l'inflation pour fixer des prix. Parce que n'oubliez pas que les taux, c'est un prix. Et dans les prix, on tient compte également de l'inflation. Et aujourd'hui, que le taux d'inflation est pratiquement bas, il va de soi que les prix aussi d'argent pour ceux qui vont dans des banques pour solliciter des crédits, les taux également sont bas. Mais alors, à garder son argent dans les banques, vous avez aussi la possibilité, au lieu de laisser votre argent, parce qu'il y a la stabilité, voilà, au lieu de garder votre argent sans pour autant avoir une contrepartie, lorsque vous mettez votre argent dans le système bancaire, les crédits que les taux d'intérêt créditaires que les banques accordent vous permet de fructifier tant soit peu votre argent.
Voilà.
Donc de part et d'autre, il y a un gain à gagner.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mabaku Kinsumona, de nous avoir donné toutes ces précisions de Lubumbashi au Katanga, où vous êtes le directeur provincial de la Banque centrale. Merci pour cette émission qui sensibilise la population sur l'épargne. Nous avons Amani qui est à Kisangani, en province orientale. Bonjour, Amani.
Bonjour, bonjour.
Et nous tendons vers la fin de cette émission. Nous faisons l'état des lieux de l'épargne en RDC, mais aussi pour regarder dans l'avenir qu'est-ce qui doit être fait pour arriver à cette culture de l'épargne.
Bon, moi, à mon avis, je voulais d'abord encourager vraiment la population à épargne auprès des institutions financières. Agroupe la Banque nationale, pas la Banque centrale, dit-on. Pour espérer à un avenir meilleur, il faut de la volonté. Hein? Il faut de la volonté, il faut du sacrifice et de l'organisation.
Mm-hmm.
Quel que soit le niveau de revenus.
Voilà, merci beaucoup. Oui, on a dit, on vous écoute, vous avez dit, vous encouragez la population à pouvoir épargner. Voilà. Et pour y arriver, il faut la volonté, le sacrifice et un certain minimum d'organisation, quel que soit le niveau de ses revenus. Merci beaucoup, Amani, de nous avoir appelé de Kisangani. Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kasaï Occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Je salue le invité ainsi que tous les auditeurs.
On vous écoute.
En ce qui me concerne, plusieurs de nos compatriotes ne savent pas ce qu'on appelle épargne.
Mmh.
Les autres le savent, mais n'ont pas confiance à cela pour plusieurs raisons, voire l'état de détournement et autres petits problèmes enregistrés dernièrement avec d'autres caisses d'épargne et de crédit. Mais en réalité, il faut inciter la population ayant un faible revenu en général et celle qui a l'habitude d'épargner en particulier envie de contribuer de leurs conditions sociales et économique par la mutuelle d'épargne et de crédit. Et ça, de sa part, l'État aussi doit soutenir l'épargne pour relancer l'économie. Notre pays ne compte qu'un million et demi de comptes en banque pour une population d'environ 70 millions d'habitants. Moi, je crois qu'il faut la mobilisation de la population en faveur d'épargne. Et autre chose que je connais, c'est de dire que la distinction entre l'épargne privée et l'épargne publique n'est pas de nature juridique. L'État congolais doit faire tout pour réhabiliter ce secteur, c'est-à-dire les doter des moyens suffisants de finances, sans oublier le contrôle à chaque trimestre par l'autorité budgétaire, sans oublier la Banque centrale. C'est ça ce que j'ai réfléchi, M. Pierrot.
Merci beaucoup, monsieur. Il y a le problème de l'ignorance et de la méfiance. Il faut sensibiliser les gens et il faut aussi que l'État puisse s'investir. Hein. Vous avez suivi aussi les témoignages par rapport, que ce soit au niveau de la Banque centrale ou bien au niveau de l'Association congolaise des banques, qu'il faut un certain minimum d'organisation, de soutien dans les secteurs pour permettre à ce que la population puisse investir. Excusez-nous. Nous avons gens qui nous appellent de Kisangani en province orientale. Jean, on va revenir à vous garder la ligne, le temps que notre invité puisse réagir un peu à ces quelques commentaires des auditeurs. On va revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Francis Zondomio, vous avez suivi les uns les autres aussi avec le témoignage de la Banque centrale qui a complété ce que vous étiez en train de dire. On ne cessera jamais d'en parler, à l'ignorance et la méfiance. Mais au niveau de la sensibilisation, comment vous vous organisez sur le terrain pour arriver effectivement à atteindre la population et la sensibiliser par rapport à ça? Ça aussi, c'est une paire de manches. Beaucoup de gens ont insisté sur la sensibilisation.
Bon, en ce qui concerne la sensibilisation, particulièrement pour ce qui concerne la session 2013, pour la journée internationale de l'épargne, il y a des actions qui sont prévues. D'abord, le lancement officiel aura lieu sur toute l'étendue de la République. Je ne dirai pas toute l'étendue, il y a 6 provinces. Mmh. Qui participent à cette session, contrairement aux 2 sessions passées qui a connu pour la session 2011 la participation de la seule province de Kinshasa. La session 2012, il y avait quelques provinces, disons quelques institutions isolées de l'intérieur du pays qui avaient participé aussi à la session 2012, mais pour la session 2013, il y a Kinshasa, il y a les Bandundu, il y a les Bas-Congo, il y a les Dekivu, donc au total c'est 6 provinces. Donc les 31, ça sera le lancement officiel et il n'y aura pas que seulement cette journée du 31, mais ça va être étendu jusqu'au D. Mais cependant, les institutions financières participantes ont commencé déjà des séances de sensibilisation dans des écoles, parce qu'en fait, la cible jusque-là visée, c'est la jeunesse. C'est pour qu'au travers de la jeunesse, on puisse atteindre même les parents. Donc, quand je parle de la jeunesse, je vois les élèves et les étudiants. Mais la campagne concerne la grande masse, mais les points focaux, c'est la jeunesse.
On va écouter le dernier auditeur de cette émission. Jean, vous êtes à Kisangani, dans la province orientale. Bonjour. Jean, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, on vous écoute, parce que là, on a des petits soucis. Hein, on va vous entendre, la ligne téléphonique sort un peu avec un niveau trop bas. Mais allez-y, on vous écoute.
Ok, c'est une préoccupation. Si le gouvernement nous aidait peut-être à sécuriser ses épargnes, voilà, nous sommes un peu déçus par la manière dont la CSR nous a commis des actes que vous connaissez, tout ce qui s'est passé à Kisangani. Il y a des détournements, mais le gouvernement n'a rien fait pour arrêter peut-être les autorités de cette entreprise. Il y a encore un cas similaire que vous connaissez qui est de l'actualité tout à l'heure. Moi, la question est de savoir, quelle est la sanction qui est prévue quand une maison d'épargne détourne les biens, l'argent des épargnants? C'est d'abord de 1 et de 2. Tous les épargnants qui sont installés à travers la République ont d'abord leur propre argent ou bien attendent l'argent que la population doit épargner pour faire tourner ça.
Merci beaucoup Jean. Nous posons la question directement à notre invité. Francis, vous avez suivi. Et il pose la question de savoir d'abord quelles sont les sanctions pour ces maisons qui détournent, qui ne sont plus à mesure de rembourser. Et l'argent pour une société de microfinance, c'est quoi? C'est attendre que les gens lui amènent de l'argent et il va être avec cet argent, ou bien l'institution commence déjà avec son fonds de démarrage? Voilà les deux questions.
Bon, je commence par les sanctions. Effectivement, la réglementation, c'est-à-dire la Banque centrale, en ce qui concerne les instructions, a prévu des sanctions. Il y a des sanctions administratives, il y a des sanctions pénales qui sont prévues pour, je ne dirais pas parce qu'une institution c'est une autorité morale, mais pour les dirigeants des institutions financières. Bon, c'est progressif, c'est jusqu'à même à retirer l'agrément pour cette institution-là. Bon, en ce qui concerne les fonds, ça dépend maintenant de la forme juridique de l'institution. Je voulais aussi insister sur le fait qu'en ce qui concerne la supervision de la Banque centrale, il y a des aspects, il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. C'est quoi les contrôles a priori? C'est-à-dire déjà lors de la demande de l'agrément pour une institution, la banque centrale a un certain nombre de conditions qu'elle a fixées pour qu'une institution obtienne l'agrément. Et la banque centrale veille à ces conditions-là. Donc c'est déjà une sorte des préventions des risques en amont. Et puis par rapport au contenu de ces conditions là il y a les capital minimum. Pour les coopératives, ça dépend des statuts de la coopérative, mais au moins la banque centrale exige, avant que la coopérative commence à exercer, que les capitales minimums soient totalement libérés. C'est-à-dire qu'il y ait réellement de l'argent frais, la liquidité, pour fonctionner. C'est-à-dire une institution financière n'attend pas seulement les fonds ou les épargnes de la population pour commencer à fonctionner. C'est ce qu'on appelle les fonds propres pour une institution.
Voilà.
Oui, donc, bon, aussi pour les IMF ou les institutions de microfinance, c'est la même chose. Là, ce n'est pas les statuts, mais c'est la banque centrale qui fixe les montants du capital minimum. Voilà. Et même aussi pour les banques. Hein.
Voilà, oui. Mais en 20 secondes, parce que là on termine l'émission, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de l'épargne en quelques deux mots tout simplement?
Bon, l'épargne c'est une bonne chose. Je tiens à souligner que c'est pas aujourd'hui que l'épargne a commencé. Si vous lisez même la Bible, vous verrez que dans le Proverbe, on parle de l'épargne, on prend la fourmi comme symbole de l'épargne. C'est pourquoi même la République a pris ce symbole-là de la fourmi pour incarner cette notion de l'épargne. Et l'épargne permet, lorsqu'elle est constituée, d'investir dans les secteurs financiers. Et ça permet à l'économie de vivre et de progresser. Donc, l'épargne, c'est une bonne chose.
Voilà, merci beaucoup. C'est par là que nous terminons cette émission. Je vous dis merci, monsieur Francis
Domion,
voilà, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert conseil en microfinance à la coopération technique allemande GIZ. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à contribuer pour cette émission consacrée à l'épargne.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
On se retrouve le lundi 28 octobre prochain. Lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès le mercredi 23 octobre dernier, le chef de l'État a annoncé la mise en place prochaine d'un gouvernement de cohésion nationale qui aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales de la population. Comment commentez-vous la feuille de route à signer au prochain gouvernement? On se retrouve le lundi prochain. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungimbo, la coordonnée, Titim Poutou pour le Badianyama ont assuré la réalisation. Pierrot et la Meiji vous la présentez. Vous allez retrouver l'émission à 20h30, heure de Kinshasa en rediffusion et sur www.radiocapi.net. Merci, bon week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.